à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington, lundi 27 août 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, en République démocratique du Congo, des candidats exclus de la présidentielle ont saisi la Cour constitutionnelle. En Ouganda, le chanteur et député Bobby Wine a été libéré sous caution après 2 semaines de détention. La première ministre britannique Theresa May entame dès demain sa première tournée en Afrique. Et puis l'Amérique rend hommage au sénateur John McCain, décédé samedi à l'âge de 81 ans. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. République démocratique du Congo, les candidats recalés pour la présidentielle se mobilisent 48 heures après la publication par la commission électorale de la liste provisoire. Les avocats de Jean-Pierre Bemba, Antoine Gizenga et Sami Badibanga ont déposé leur requête contre cette décision de la CENI. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après la Commission électorale nationale indépendante et ses listes provisoires, la Cour constitutionnelle entre en jeu pour trancher en dernier ressort. Elle a reçu durant toute la journée de ce lundi les délégations des 6 candidats présidents de la République dont les dossiers ont été déclarés irrecevables le 25 août dernier par la CENI. Le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, le parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga, comme les anciens premiers ministres Sami Badibanga et Adolphe Muzito espèrent tous, en déposant leur requête contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante, que justice sera rendue en leur faveur. La période du traitement par la Cour constitutionnelle des requêtes des candidats présidents et députés nationaux ira jusqu'au 4 septembre courant, conformément au calendrier électoral. Entre le 5 et le 11 septembre, la Cour constitutionnelle va notifier la CENI de ses arrêts avant la publication des listes définitives prévues le 19 septembre 2018. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Par ailleurs, plusieurs membres du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, la France et les Pays-Bas, ont affirmé la disponibilité de l'ONU à fournir une aide logistique pour ces élections prévues le 23 décembre. Une aide que Kinshasa refuse. Est-ce qu'il y aura suffisamment de machines à voter ou est-ce que les autorités vont prolonger le vote sur des jours ou des semaines supplémentaires? Est-ce qu'il est possible de recharger les machines à voter dont les batteries tiennent 12 heures? Est-ce que ces machines ont été dûment testées? C'est demandé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, hostile aux machines à voter. Pour elle, accepter un soutien logistique de la MONUSCO ne revient pas à rogner la souveraineté de la RD Congo. Cependant, l'Afrique du Sud dit avoir confiance dans le déroulement pacifique de l'élection présidentielle en RDC. République démocratique du Congo toujours, 2 militaires ont été tués par des présumés miliciens en Ituri dans le nord-est du pays. Des assaillants ont ouvert le feu sur les soldats dans la localité de Laoudjo, d'après un porte-parole de l'armée dans la province. Le territoire de Djougou a été secoué récemment par des violences intercommunautaires. Au Mali, l'un des principaux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara, Mohamed Ag Al-Mouner, et 2 civils ont été tués dans une opération de l'armée française dimanche dans la région de Ménaka, dans le nord du pays. C'est ce qu'annonce l'état-major français. Les commandos déployés au sol après une frappe aérienne ont constaté la mort de Mohamed Ag Al-Mouner et d'un membre de sa garde rapprochée. Ils ont découvert que 2 civils, une femme et un adolescent, avaient également été tués selon le communiqué. Au Mali toujours, Paul Borro, ancien cadre de la majorité, soupçonné d'avoir armé des jeunes avant une manifestation de l'opposition, a été interpellé hier soir à son domicile de Bamako. Et Sénégal, plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. Une campagne de collecte de parrainage a débuté. Elle est destinée à limiter le nombre de candidatures dans un pays qui compte plus de 300 partis politiques. Elle doit durer au moins 4 mois. Burkina Faso, un référendum constitutionnel devant donner naissance à un régime semi-présidentiel se tiendra le 24 mars 2019. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. La CENI annonce le lancement prochain d'une révision du fichier électoral dans la perspective de ce référendum constitutionnel. La nouvelle constitution promise par le président Kabore devra mettre fin à la 4e République et limiter à 2 le nombre de mandats. Elle prévoit aussi une procédure de destitution du président, passant par la Cour constitutionnelle. La première ministre britannique, Theresa May, entame demain sa première tournée en Afrique. Elle commencera en Afrique du Sud, puis se rendra au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à la sécurité et au commerce. Claire Morin-Gibourg.
Theresa May va ouvrir sa tournée africaine par un discours sur l'économie au Cap, en Afrique du Sud. À quelques mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la première ministre britannique a déclaré que le moment était venu pour son pays d'approfondir et de renforcer ses partenariats à travers le monde. Elle se dit impatiente de discuter afin de contribuer à la réalisation d'investissements importants et à la création d'emplois en Afrique. Des rencontres sont prévues avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président nigérian Muhammadu Buhari et le chef d'État kényan Uhuru Kenyatta. La sécurité sera le second thème de ce voyage et Theresa May devrait annoncer un soutien supplémentaire pour lutter contre l'instabilité dans toute la région. Il s'agit de la première visite d'un premier ministre britannique en Afrique subsaharienne depuis 2013 et de la première au Kenya depuis le voyage de Margaret Thatcher en 1988.
Nous reviendrons sur les relations de la Grande-Bretagne à l'Afrique dans la partie magazine en seconde partie de cette édition. En Ouganda, le chanteur et député Bobi Wine a été libéré sous caution après 2 semaines de détention. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le juge Stephen Mubiru a accordé la libération sous caution à Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, et 33 de ses co-accusés, dont 2 députés de l'opposition. Certains opposants se sont portés garants pour leur libération sous caution. Lors de ses comparutions, le chanteur et député a paru affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu'il a été torturé pendant sa détention, des accusations rejetées par les autorités. Bobi Wine, depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, est resté très critique du président Yoweri Museveni. Sa détention a déclenché des manifestations réprimées, notamment à Kampala. Mercredi, une centaine de musiciens, artistes et hommes politiques ont dénoncé dans une lettre ouverte le traitement qui lui a été infligé. Il est reproché à Bobi Wine et ses co-accusés d'avoir jeté des pierres sur la voiture du président Museveni en tournée dans le nord du pays pour soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Les accusés devront à nouveau comparaître le 30 août.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les réactions continuent de tomber suite au décès samedi du sénateur John McCain. Le héros de la guerre du Vietnam souffrait d'un cancer du cerveau. Des cérémonies d'hommage auront lieu dans son état, en Arizona et ici à Washington. Bagassi Koura.
Le cercueil de John McCain sera d'abord présenté mercredi au Capitole de l'Arizona, état qu'il a représenté plus de 35 ans au Congrès. Les habitants pourront se recueillir devant sa dépouille. Un office religieux aura lieu jeudi dans une église baptiste locale. Le vendredi, il sera transporté à Washington où son cercueil sera présenté au public dans la rotonde du Capitole, un honneur réservé aux grands personnages de l'histoire des États-Unis. Les résidents de Hanoï au Vietnam ont aussi rendu hommage à l'ancien prisonnier de guerre qui a contribué à panser les plaies de la guerre du Vietnam. À l'époque, pilote de chasse, son avion a été abattu au-dessus de Hanoï le 26 octobre 1967. Blessé, John McCain a été capturé. Il a passé 5 ans en détention où il a été torturé et restera handicapé toute sa vie. Les funérailles nationales auront lieu samedi à la grande cathédrale de la capitale américaine. Les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush devraient, selon le New York Times, prononcer des éloges funèbres.
La coalition sous commandement saoudien au Yémen accuse l'ONU de faire le jeu des rebelles dans ce pays en guerre. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires a accusé la coalition dirigée par Riyad d'être responsable de 2 raids aériens qui ont tué 26 enfants le 23 août dans l'ouest du Yémen. Cette coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite est depuis mars 2015 le gouvernement au Yémen face aux rebelles houthis appuyés par l'Iran et qui se sont emparés de vastes régions dont la capitale Sanaa. Israël a rouvert aujourd'hui le point de passage d'Eretz avec la bande de Gaza. Le terminal d'Eretz fermé depuis une semaine à la suite d'affrontements à la frontière est le seul point de passage pour les personnes entre l'enclave palestinienne et Israël. La bande de Gaza est soumise depuis 10 ans à un blocus israélien. La frontière avec l'Égypte est la plupart du temps fermée. Aussi, le ministère israélien de la Défense annonce la signature d'un important contrat avec un groupe d'armement national pour le développement et la production de missiles capables, selon lui, d'atteindre n'importe quelle cible dans la région. Les États-Unis vont se défendre vigoureusement face à l'Iran devant la Cour internationale de justice. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. La CIJ a commencé à étudier une procédure engagée par Téhéran contre les sanctions américaines. Mike Pompeo accuse donc l'Iran de tenter, je cite, d'interférer avec les droits souverains des États-Unis à prendre des mesures légales, parmi lesquelles le rétablissement de sanctions qui sont nécessaires à la protection de notre sécurité nationale. En Allemagne, Angela Merkel dénonce des chasses collectives contre les étrangers menées par des sympathisants d'extrême droite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique. C'est la Minute Éco avec Raïssa Girondin.
L'Éthiopie bénéficiera de 1 milliard de dollars de financement de la part de la Banque mondiale, a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed. Ce nouveau financement devrait permettre de financer le budget fédéral de 12,6 milliards de dollars adopté par le gouvernement en juin dernier. « Mon rêve et mon ambition est la tenue d'élections démocratiques », a-t-il d'ailleurs indiqué, promettant des élections libres pour 2020. La Banque mondiale identifie les principaux obstacles au commerce agricole régional en Afrique centrale. Il s'agit principalement de la faiblesse des liens entre les agriculteurs et les marchés, de la mauvaise qualité des infrastructures et des coûts élevés du commerce résultant de la corruption le long des corridors de commerce régionaux. Ce rapport de la Banque mondiale sera officiellement présenté le 30 août 2018 à Yaoundé. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara quitte Abidjan pour la Chine pour une visite d'État le 28 août et participer au troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine prévu les 3 et 4 septembre à Beijing. La rencontre de Beijing prévoit la signature de conventions de coopération entre la Chine et l'Afrique pour les 3 années à venir. Plusieurs présidents et chefs de gouvernements africains, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies et des organisations internationales sont annoncés pour ce forum Chine-Afrique.
Plein feu sur les stades, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Éliminatoire Cannes 2019, la liste de la RD Congo pour la deuxième journée est tombée aujourd'hui.
Le sélectionneur Florent Ibenge a retenu 26 joueurs pour le déplacement des Léopards au Libéria le 7 septembre. On y retrouve des absences de taille, Cédric Bakambu qui enchaîne les buts en Chine, 13 réalisations en 15 matchs de championnat, le meneur de jeu Gaël Kakuta et les défenseurs Marcel Tisserand et Chancel Mbemba, ces deux derniers étant blessés. Pour le reste, Matampi, Yannick Bolassier, Issaman Peko, Jonathan Bolingui et autres sont là, tout comme affirmé Moubele. En revanche, point de place pour les goléadors Jean-Marc Makoussou de V-Club et Ben Malango du TP Mazembe.
En Europe, Bastian fera ses adieux au Bayern demain.
L'ancien milieu de l'équipe d'Allemagne, Bastian Schweinsteiger, va célébrer son jubilé à l'Allianz Arena pour sa toute dernière apparition sous les couleurs du Bayern Munich. Opposé pour l'occasion à son nouveau club de Chicago Fire. Âgé de 34 ans, l'ex-capitaine de la Mannschaft disputera une période pour le Bayern et une autre pour Chicago. Il avait quitté le club bavarois pour rejoindre Manchester United en 2015, après 17 ans et 20 titres avec le Bayern. Il a disputé plus de 500 matchs avec le Bayern Munich, qu'il a rejoint à l'âge de 13 ans.
Athlétisme, le Kenya va se doter d'un nouveau laboratoire antidopage en septembre.
Et oui, l'annonce a été faite par la Fédération kényane d'athlétisme. Ce laboratoire analysera les échantillons sanguins concernant toutes les disciplines de l'athlétisme au Kenya, en Érythrée, en Éthiopie, en Tanzanie et en Ouganda. Jusqu'à présent, les échantillons sanguins des athlètes d'Afrique de l'Est devaient être envoyés en Afrique du Sud ou en Europe pour être analysés. Courant juillet, 5 coureurs kényans ont été provisoirement suspendus par la Fédération internationale d'athlétisme pour dopage. Au total, 114 athlètes kényans ont été suspendus pour des infractions liées au dopage, dont 54 le sont actuellement.
Et puis, 22 pays seront présents au championnat d'Afrique de karaté.
Oui, Kigali, la capitale rwandaise, accueille le continent à partir de demain et ce jusqu'au 2 septembre pour les championnats d'Afrique de karaté. 22 pays ont confirmé leur participation à l'événement. Deux événements se dérouleront pendant la période, la 17e édition du championnat d'Afrique senior et la 9e des juniors.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En République centrafricaine, l'armée nationale renaît progressivement de ses cendres. Anéantie par la prise de pouvoir de la rébellion Selika en mars 2013, les forces d'armée centrafricaines font progressivement leur retour sur scène grâce à l'aide de la communauté internationale. Correspondance de Freeman Sipila à Bangui.
Malgré ses 12 000 hommes, la MINUSCA, la force de l'ONU, n'est pas parvenue à asseoir la sécurité réclamée par les Centrafricains. Aujourd'hui, plus de 60% du pays échappe au contrôle du pouvoir de Bangui, des régions totalement contrôlées par des groupes armés, pour la plupart de l'ex-Séléka. Ces hommes sont armés jusqu'aux dents malgré l'embargo imposé par l'ONU sur les armes à destination de la République centrafricaine. À Bangui, en deux ans, plus de 3000 soldats centrafricains sont déjà formés par l'Union européenne à travers sa mission technique EUTM. Après la formation avec EUTM, les mêmes soldats doivent subir une autre formation au maniement des armes et aux tactiques de combat données par des instructeurs russes au camp militaire de Biringo, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bangui. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra veut former une armée républicaine, mais de garnison avec ses militaires recyclés.
Il n'est plus question de faire une armée de projection, parce que vous voyez bien, il faudrait que l'armée se rapproche des centres de menace, se rapproche davantage de la population pour être aux côtés d'elle. Et je pense qu'avec le soutien, je le dis bien, parce que nous avons des difficultés aujourd'hui, mais il y a certains partenaires qui commencent à s'annoncer pour nous aider à mettre en œuvre cet objectif d'armée de garnison.
Grâce aux dons en moyens logistiques des États-Unis, de la Chine et de l'Union européenne, l'espoir renaît au sein de la population. Aujourd'hui, le redéploiement de l'armée nationale à l'intérieur du pays devient une nécessité et un moyen incontournable pour la restauration de la sécurité. À Paoua, dans le Nord, les déplacés commencent à regagner leurs habitations. Capitaine Thierry Nambobona, chef des FACA déployé dans cette ville.
On a un dispositif qui couvre plus de 110 km et un autre qui couvre plus de 90 km tout proche de la frontière tchadienne. Donc avec les événements qui se sont passés, il y avait plus de 86 000 déplacés qui étaient dans la ville de Paoua. Ben aujourd'hui, tout le monde est réparti dans les villages et puis ils vaquent librement leurs occupations, ils font leurs travaux champêtres.
À Sibut-Bongassou, où les forces armées sont trafiquées, qui sont également redéployés, le calme est revenu et les activités champêtres sont relancées. Serge Singa Bingba, président du collectif des députés du Mbomou, se félicite de la calmie retrouvée.
Actuellement, effectivement, la situation sécuritaire s'est grandement améliorée avec le redéploiement des FACA. Depuis que les FACA sont à Bangassou, de nombreux déplacés qui avaient choisi de s'exiler en République démocratique du Congo reviennent massivement dans la ville, confiant en la capacité de leurs forces armées nationales à assurer leur sécurité.
Le gros problème qui reste en ce moment est la solution à l'équation groupes armés hostiles à la présence de l'armée nationale dans les zones sous leur contrôle. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
La première ministre britannique Theresa May entame demain en Afrique du Sud sa première tournée en Afrique, qui l'amènera également au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à la sécurité et, dans la perspective du Brexit, au commerce. Sur les enjeux du séjour africain de Theresa May, Jean-Roger Billon a joint Tunde Fatunde, enseignant à l'Université d'État de Lagos au Nigeria.
Brexit veut dire une relation rompue économiquement et financièrement avec l'Union européenne. Donc il faut chercher ailleurs. Et pour chercher ailleurs, l'Afrique devient un point de référence pour les Britanniques. Le Brexit est une erreur fondamentale et les Anglais l'admettent. Ils ont voté pour Brexit et voilà que il y a un problème qui se pose. Donc ils sont obligés de regarder ailleurs, pour chercher d'autres partenaires. L'Afrique devient maintenant l'une des possibilités de se refaire surface.
Quel type de proposition de coopération la première ministre britannique peut proposer?
C'est pour essayer de trouver une alliance, une relation financière et économique. C'est-à-dire, une fois de plus, c'est pour trouver un marché pour les produits britanniques.
Alors, l'un des volets de cette visite de la première ministre britannique, c'est la sécurité, avec par exemple au Nigeria la lutte contre Boko Haram. On savait la France présente, on savait les États-Unis présents. Quelle est la valeur ajoutée de la Grande-Bretagne?
C'est pour pouvoir aussi vendre des armes. Pour lutter contre l'insécurité, il faut des experts et des armes et munitions. Donc peut-être que ça pourrait être un débouché pour la campagne militaire britannique. Vous savez que l'instabilité demande une coopération entre les agents de sécurité pour lutter contre l'insécurité. Les Anglais ont délaissé l'Afrique depuis longtemps parce qu'ils trouvent que l'Union européenne est une alternative à l'Afrique. Maintenant, peut-être qu'ils sont obligés de réfléchir là-dessus.
Il y aura une autre étape en Afrique du Sud. La première ministre va atterrir à Pretoria au moment où le président Ramaphosa est en train de mettre en application la réforme agraire. Londres s'est toujours opposé à ce type de politique. Ne pensez-vous pas qu'on va vers un clash?
Écoutez, l'Afrique du Sud, c'est un pays indépendant et souverain. Donc, l'intervention britannique, pour moi, c'est une intervention qui n'est pas la bienvenue. La Grande-Bretagne n'a pas exécuté la promesse financière pour le Zimbabwe à l'époque. C'est ce problème qui se pose. Maintenant, aller en Afrique du Sud pour maintenant dire que le diktat britannique doit être mis en application à Pretoria, pour moi, ça sent un parfum néocolonial. Je suis sûr que les Sud-Africains sont capables d'apporter une réponse adéquate à ce problème de terre.
Tunde Fatunde, enseignant à l'Université d'État de Lagos, au Nigeria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Tête à tête ce mardi à la Maison Blanche entre le président Donald Trump et son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Dans un entretien accordé à notre collègue Esther Guitui du service anglais de la VOA, le leader kényan a évoqué un certain nombre de dossiers. Timothée Dodangmaï.
Uhuru Kenyatta a dit être venu à Washington pour des discussions sur la coopération sécuritaire et les échanges commerciaux avec les États-Unis.
Nous voulons voir comment améliorer nos relations commerciales, comment encourager un plus grand nombre d'investissements américains à venir au Kenya pour prendre avantage des réformes que nous avons mises en place, particulièrement au cours des 4 dernières années.
Le président Uhuru Kenyatta s'est dit déterminé à mener jusqu'au bout la bataille contre la corruption.
Nous apprécions spécialement le soutien que nous recevons des États-Unis en termes de renforcement de capacités et de formation et l'implication de leurs agences comme le FBI et d'autres avec lesquelles nous sommes en étroite collaboration.
Après les vives tensions déclenchées par la présidentielle de 2017, le président kényan a assuré que sa poignée de main symbolique du 9 mars 2018 avec l'opposant Raila Odinga tient toujours.
Après tout, nous appartenons à une même nation, un même pays, le Kenya. Nous sommes un seul peuple. Il n'est dans l'intérêt de personne de permettre à des différences politiques de provoquer la désintégration de notre pays.
Au plan régional, le président Kenyatta a fait part de la détermination des pays d'Afrique de l'Est à soutenir le processus de paix sud-soudanais pour le bien de la population du Soudan du Sud. Il se réjouit des importantes réformes engagées en Éthiopie par le Premier ministre Abiy Ahmed.
Il a une vision pour son pays et il a une vision pour notre région également. Et j'entends collaborer étroitement avec lui pour que cela se réalise.
Le président Uhuru Kenyatta s'est félicité du rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cela contribuera à la paix et à la stabilité en Afrique de l'Est, a-t-il souligné.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les hommages se multiplient pour le sénateur John McCain, décédé samedi à l'âge de 81 ans. Et c'est l'homme qui est à célébrer et non l'acteur de la vie politique américaine, selon Souleymane Bachir Ndiaye, professeur de philosophie à l'Université de Columbia à New York, joint par Irénée Hermanoumbo.
Les hommages s'adressent beaucoup à l'homme tout court qu'il était. Il a eu évidemment un destin absolument extraordinaire. On rappelle toujours sa jeunesse, son combat au Vietnam et le fait qu'il ait été pendant 5 ans prisonnier de guerre, qu'il ait connu la torture. Il a survécu à ces 5 années-là avec beaucoup de bravoure, manifestant beaucoup de fermeté. C'était donc un homme de courage physique. Et c'est cette personnalité qui est saluée par beaucoup aujourd'hui.
On salue son parcours exceptionnel, notamment 6 mandats au Sénat. Mais pourquoi n'a-t-il pas pu se faire élu président après 2 tentatives, d'abord avec le président Bush, puis face à Barack Obama?
Évidemment, il y a toujours les impondérables de l'histoire. Le président Bush avait pour lui la machine républicaine. Il était un peu l'outsider. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait concernant Barack Obama, paradoxalement, c'est lui-même qui l'a expliqué. Il lui a rendu un hommage vibrant parce que son discours pour reconnaître sa défaite devant le président Obama est un modèle du genre où il a indiqué que selon lui, l'histoire, d'une certaine façon, avait joué en sa défaveur. L'histoire était vraiment en faveur de la candidature de celui qui était alors son collègue au Sénat, Barack Obama. Et c'est McCain lui-même qui a dit cela. Mais au-delà du fait que ces deux hommes lui ont barré la route de la présidence, ce qui indique quelle personnalité était la sienne et quel être humain il était, il a lui-même demandé que ces deux personnes parlent pour ses funérailles. C'est véritablement une indication du caractère exceptionnel de cet homme.
Justement, le sénateur McCain n'a pas voulu que le président Trump prononce un discours à ses obsèques. Votre réaction?
Donc, ils sont tellement différents. Je crois qu'on ne peut pas être plus différent que le sénateur McCain et le président Trump, bien qu'ils soient tous les deux du même parti. Disons que McCain était véritablement l'incarnation du parti républicain dans son opposition à la Russie de Poutine, dans sa volonté d'être leader d'un monde qui avait été le monde organisé par les États-Unis eux-mêmes après la Deuxième Guerre mondiale, alors que le président Trump balait tout cela d'un revers de main.
Pensez-vous que Donald Trump peut-il décider de ne pas se rendre à ses obsèques et juste se contenter de ses tweets?
Je crois que ce sera le cas, parce qu'il me semble que le sénateur lui-même avait demandé expressément à sa famille que le président Trump ne soit pas là, d'après ce que j'ai compris des nouvelles.
C'était le professeur Souleymane Bachir Ndiaye de l'Université Columbia à New York. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Jacques Thiérault, à la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir. Like you.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.